à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Philippe et Christophe à la technique. Bonjour Philippe, bonjour Christophe. Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Ensemble et en direct jusqu'à 11h. Aujourd'hui, mardi 7 décembre, cuisiner en famille en compagnie d'un chef étoilé, collectif d'entreprises en faveur de l'emploi et de la qualification et rencontre avec le jardinier le plus célèbre de France sont les thèmes du jour. Une émission que vous pourrez réécouter en replay et en toute tranquillité sur idfm98.fr. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Joël Boileau. Bonjour Joël.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre présence à notre antenne. Joël, vous êtes un chef cuisinier français deux fois étoilé, après avoir dirigé le Duc d'Enghien, le Céladon à Paris et l'Hôtellerie du Nord à Auvers-sur-Oise. Vous êtes aujourd'hui cofondateur et directeur général de Devenez Chef, une nouvelle aventure qui enchaîne les succès et les récompenses. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Et notons au passage aussi que vous êtes également élu à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de l'école Ferrandi de la Chambre d'industrie du Paris-Île-de-France. Chambre de commerce et d'industrie, pardon. À vos côtés, Karine Eudre. Bonjour Karine.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Karine, vous êtes la directrice du GEIC, G-E-I-Q, Île-de-France, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, une belle initiative d'innovation sociale portée par des entrepreneurs. Vous nous expliquerez les origines de ce groupement, ainsi que la vocation et les missions de cet écosystème. Et à vos côtés, Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour.
Très heureuse également de votre présence sur notre plateau. Pour vous présenter, la liste est longue, Alain, et je vais me contenter de préciser que vous êtes donc le jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles, écrivain, chroniqueur de télévision et de radio. Vous êtes surtout un amoureux des jardins et des arbres et nous avons hâte de savoir comment sont nées ces passions. Bienvenue à vous trois et encore merci pour votre présence sur notre plateau. Juste avant de vous donner la parole, notre chroniqueur du jour, Bruno Vigoureux, passionné lui aussi en gastronomie, va nous dévoiler une nouvelle recette dont il a le secret. Bonjour Bruno, comment allez-vous ?
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous. Moi, ça va, enfin, si on peut dire. Ça fait quand même la deuxième fois que vous me faites le coup. Hein. Oui, inviter un chef doublement étoilé le jour où j'arrive avec ma recette. D'habitude, je peux dire n'importe quelle bêtise, ça passe, mais là, c'est comme si je passais une sorte d'examen d'oral. Remarquez, heureusement que je n'ai pas à faire la recette devant le chef Joël Boileau. Il manquerait plus qu'il la goûte et là, je deviendrais carrément liquide. Bon.
Vous savez que j'ai toute confiance en vous, Bruno.
Bien sûr, bien sûr. On va se détendre. Je vais faire comme si. Je vais faire comme d'habitude, en tout cas. Je vais essayer. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette express, simple, économique. Elle a tout pour plaire. C'est un jeune chef dans le nord de la France qui fait ça. Je l'ai vu à la télé récemment et aussitôt, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse. Ce sont des endives au jambon, mais un peu revisité. C'est une recette pour 4 personnes. Il vous faut donc 8 endives de pleine terre et pas trop grosses de préférence. Oui, je compte 2 endives par personne, mais en fait, c'est à vous de voir selon l'appétit des gens autour de la table et au pire, ça fera un beau reste. 8 tranches de jambon chez votre charcutier, si vous pouvez. Pas trop fine, afin d'avoir un peu de mâche. Et 40 g de beurre, 30 g d'un côté, 10 de l'autre, 30 g de farine, 25 cl de lait, 25 cl de crème fleurette, un fromage du Nord, mais j'y reviendrai tout à l'heure, des cébettes, du piment d'Espelette. Et pour commencer, on va d'abord naturellement laver les endives et puis on va les émincer directement. Vous faites fondre le beurre afin qu'il devienne noisette, c'est-à-dire bien mousseux. Vous mettez les endives et vous les mélangez avec le beurre, juste le temps qu'elles se raffermissent un peu, et vous ajoutez 2-3 cébettes coupées en petits tronçons pour apporter un peu de couleur. Vous coupez votre jambon en petits morceaux, pas trop petits quand même, et là vous pouvez ajouter un peu de jus de citron pour casser l'amertume des endives. À ce moment-là, vous mettez 1 ou 2 pincées de piment d'Espelette. Vous versez le tout dans un plat à four et que vous préchauffez à 180 degrés. Là, on va s'occuper de la sauce béchamel. Pas de panique, n'ayez pas peur, c'est enfantin. Vous faites fondre les 30 grammes de beurre. Quand il est fondu, vous ajoutez les 30 grammes de farine et vous mélangez. Ensuite, vous incorporez les 25 centilitres de lait et les 25 centilitres de crème fleurette et vous mélangez énergiquement avec un fouet jusqu'à la sauce épaississe. Voilà. Votre béchamel est prête. Vous la versez sur les endives et vous posez dessus 4 à 5 tranches de fromage selon la taille du plat. Alors, pour le fromage, moi je l'ai fait ça avec un fromage du Nord brossé à la bière. C'était bien. Mais je me demandais, là je m'adresse à vous, chef, si un maroilles ne ferait pas mieux l'affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Pour ma part, le maroilles est tout à fait... conviendrait très bien à cette recette, surtout quand on l'a fait façon nordique de la France. Et c'est un fromage qui, bien sûr, rebute parce qu'on dit « Ah non, il est fort !» Alors que quand il chauffe, il perd toute cette puissance en bouche. C'est vrai que dans la pièce, ça sent un petit peu le fromage.
Ça sent bon, mais bon, c'est le maroilles.
Est-ce que je peux me permettre une petite...
Bien sûr.
Vous savez que la béchamel, c'est une des sauces les plus faciles à réussir et qui, malheureusement, il y a toujours des grumeaux. Alors, il y a un secret, mais un secret de chef, faut savoir les donner. Eh bien, quand vous faites votre béchamel, si vous faites votre roux immédiatement et donc qu'il est encore chaud, versez un tiers du lait froid.
Oui, c'est du lait froid. J'aurais dû le préciser, voilà. Il était froid.
Parce que si vous mettez du lait chaud, chaud plus chaud, grumeaux. Donc, chaud et froid... Une sauce lisse, chaud et chaud, grumeaux.
Oui, voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'était du lait froid. Donc voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à glisser le plat pendant une bonne vingtaine de minutes. En fait, c'est toujours pareil, c'est à l'œil que l'on voit si c'est prêt ou pas. Voilà, c'est un vrai plat de saison, et je le répète, c'est vite fait, économique et surtout super bon. Maintenant, Jacqueline, je dois vous avouer quelque chose. Je ne sais pas si je reviendrai la semaine prochaine.
Ah.
Oui, car s'il y a de nouveau un chef, je ne vais pas supporter. Ça me met une pression de dingue, mes petits nerfs vont finir par lâcher. Soyez gentille, Jacqueline, ménagez-moi, je compte sur vous. Allez, au revoir, bonne cuisine à tous et à bientôt, peut-être.
Vous avez le diplôme, ne vous inquiétez pas, les chefs sont gentils, beaucoup plus gentils qu'on ne croit.
Merci, chef.
Merci, Bruno, merci encore, une très belle idée avec l'oreille attentive de Joël Boileau. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, j'espère.
Oui, je plaisantais, à la semaine prochaine,
merci.
Bien sûr.
C'est l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Et ce matin, je reçois Joël Boileau, chef étoilé français, cofondateur et directeur général de Devenez Chef, vice-président de l'école Ferrandi, chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, Karine E, directrice du GEC Île-de-France, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du Château de Versailles, écrivain, chroniqueur de télévision et de radio. Et maintenant, place à Joël Boileau. Rebonjour Joël.
Rebonjour Jacqueline, merci de m'accueillir.
Je vous en prie Joël, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je vous avais donc accueilli déjà en juin, mais en tant qu'élu de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et vice-président de l'école Ferrandi, donc Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, pour évoquer la mobilisation des chambres de commerce en faveur des restaurants. Et aujourd'hui, j'accueille le cofondateur et directeur général de Devenez Chef.
Voilà, plusieurs casquettes, c'est vrai.
C'est ça. Un jeu de société pour cuisiner en famille ou entre amis, et plus précisément un jeu de cartes culinaires créé pendant le premier confinement qui, depuis sa création, a séduit un large public et qui vient de remporter la médaille d'or au prestigieux concours L'Épine, ainsi que le prix du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Une belle reconnaissance pour une activité née initialement pour permettre la survie d'une toute jeune start-up fragilisée par la crise sanitaire. C'est bien ça?
Vous avez résumé, Jacqueline, et merci de préciser toutes ces péripéties qui nous ont suivies avec mon associé, un jeune de 30 ans de moins que l'ancien chef.
Mais une belle complémentarité.
Voilà, une complémentarité totale. Et bien sûr que ce jeu, je
dirais, grâce à la pandémie et au Covid, à la Covid-19, nous avons créé ce jeu, puisque la base de Devenez Chef, c'était Devenez Chef au bureau, où nous faisions du team building en entreprise. C'est bien ça. Sûr, qui n'a toujours pas repris. Et si nous n'avions pas créé Devenez Chef en famille et entre amis, bien évidemment que l'entité aurait déjà périclité. Aujourd'hui, elle est très fragile. Merci de l'avoir souligné. Tout simplement parce que nous avons subi toutes les crises et nous les subissons encore aujourd'hui. Et vous savez, même si notre Premier ministre hier soir a essayé de nous rassurer tous, la cinquième vague est là, présente, va obliger à encore se transformer sur cette fin d'année des achats par Internet et voilà, le présentiel de moins en moins. Et toute cette partie-là nous a fragilisés parce que bien évidemment, nous n'avons pas été assez présents dans les magasins. Bien évidemment, aujourd'hui, la reconnaissance, vous l'avez souligné, c'est d'avoir obtenu cette médaille d'or du concours Lépine, où nous l'avons présenté sans vouloir prétendre à ce niveau-là. Mais les jurys en ont jugé autrement, et je les en remercie encore, parce que c'est vrai que c'est une belle façade aujourd'hui pour présenter un jeu français, fabriqué en France, avec toutes les dispositions que l'on veut d'un jeu propre, sans plastique, oui. Et avec le maximum de proximité pour le faire.
En oubliant les tablettes, les smartphones et tout ça.
C'est exactement ça. Bien évidemment, certains, du moins, pas beaucoup, mais certains nous demandent pourquoi vous ne le digitalisez pas. Eh bien, notre but, c'est l'inverse, c'est de dire stop à la digitalisation, stop aux smartphones, stop aux tablettes, et revenons à des choses concrètes. Et Dieu sait que nous avons des retours sur nos sites, des gens qui le jouent, qui nous disent quel plaisir de pouvoir faire un jeu uniquement avec un téléphone pour utiliser le chronomètre.
Oui, absolument. Oui. Alors je rappelle, c'est un concept, donc Devenez Chef, c'est un concept amusant, fédérateur, gourmand, et tout le monde met les mains, le principe du jeu est très simple, tout le monde met les mains à la pâte pour réaliser un menu complet en essayant de devenir le chef de brigade. Chaque carte de jeu représente une mission et donc une étape de la recette. Les convives joueurs piochent tour à tour une carte et réalisent leur mission culinaire. Et à chaque étape terminée, les joueurs tirent une nouvelle mission jusqu'à la confection complète du repas avec au bout le plaisir de pouvoir déguster son propre repas. C'est vraiment une idée superbe.
Oui, c'est une idée qui est donc issue de cette première idée du team building entreprise, où nous le faisions faire par groupe de 8 aux personnes qui étaient conviées à ce team building. On l'a transformé, c'est un petit peu compliqué parce que là le chef n'était pas derrière, il fallait que les cartes soient explicites pour ne pas rater. Et donc quand vous parlez de pas à pas, c'est exactement cela, c'est-à-dire que quand aujourd'hui vous voulez faire un repas complet, entrée, plat, dessert, vous rentrez en cuisine avec vos livres ou votre livre ou quoi que ce soit, et puis vous faites la recette A, la recette B, la recette C, et la complexité qu'il fallait trouver, et c'est pour ça que nous avons là aussi été primés, c'est de lier à chaque carte, vous ne savez jamais pourquoi vous travaillez, si c'est l'entrée, le plat ou le dessert, mais tout ça s'imbrique comme un puzzle, et le puzzle se termine entre 1h15, 1h30 après. Donc vous voyez, un temps très limité pour faire entrée, plat, dessert. Et donc ce puzzle se termine et vous avez devant vous, présenté, prêt à mettre les pieds sous la table, votre repas.
Alors, quelques questions et gages pimentent le jeu et permettent de gagner des étoiles.
Exactement. Il y a un jeu dans le jeu, puisque dès qu'on dit jeu, il faut savoir s'amuser. Alors, la cuisine est déjà un très joli jeu, mais on a pimenté pour que, dans la brigade, un des participants, et je précise, on peut jouer entre 2 et 6 personnes,
oui,
et puisse devenir le chef de la brigade. Et donc, c'est des petites cartes qui s'appellent Surprise du chef. On a essayé d'être sérieux mais humoristique, et il y a plein de choses qui portent à rire et qui permettent de se détendre en même temps que l'on cuisine. Et à la sortie, bien sûr, celui qui a le plus d'étoiles devient le chef de la brigade. Il a un privilège, c'est de se faire servir pendant tout le repas par tous les autres. Et puis bien sûr, il y a toujours un perdant, celui-là, comme je dis toujours, il fait la vaisselle, ou il a le droit aussi d'appuyer sur le bouton du lave-vaisselle, hein.
D'accord. Bon, c'est pas une obligation de passer dans l'évier, alors.
Voilà.
Donc c'est une ce jeu se décline en plusieurs univers hein, comme les saveurs du terroir, les recettes de grand-mère, les douceurs de la mer ou un menu végétal gourmand. Je précise qu'il est disponible en commande sur internet mais également au Grand Cercle d'Éragny-sur-Oise au Leclerc de Saint-Ouen-l'Aumône et vous avez quand même vendu plus de 10 000 exemplaires.
C'est exact. Voilà, on fait les comptes maintenant après un an du démarrage, puisque c'était le 1er octobre l'année dernière.
Oui.
Et donc voilà, on est sur 10 000 jeux de vendus. On espère encore améliorer avec les fêtes de fin d'année et que sous les sapins il y ait un jeu Devenez Chef. Je remercie aussi bien sûr les deux établissements du Val d'Oise qui nous ont fait confiance, eux et en direct, qui sont le Grand Cercle à Éragny, où bien sûr vous trouverez là encore la gamme complète de nos jeux, puisque nous avons j'ai développé 9 jeux en tout sur 6 thèmes, et puis quelques surprises pour l'année prochaine, mais je vous en parlerai dans quelques instants.
Vous reviendrez, oui.
Non, mais je vous en parlerai d'accord. Quand vous allez me questionner, parce que je suis sûr, vous connaissant, et maintenant.
Oui, alors, ce que je voulais vous demander, c'est ce concours Lépine, c'était évident pour vous de candidater?
Ah, pas du tout.
Non.
Non, mais vous
comment
imaginez
ça s'est,
que vous imaginez
organisé.
Ben vous imaginez qu'un chef de cuisine, il fait des recettes, il fait à manger, il fait plaisir, il donne des étoiles dans les yeux, mais quant à savoir qu'il est capable d'être un innovateur et de créer quelque chose qui mérite une médaille au concours Lépine, pas du tout. C'est tout simplement une personne qui a joué à ce jeu, qui est je vais dire voilà le mari d'une jury du concours
d'accord.
Lépine et qui lors d'une rencontre totalement professionnelle et sans rapport avec le jeu me dit mais je l'ai essayé chez ma fille, vous devriez le présenter au concours Lépine parce que c'est une innovation. Et voilà comment ça a démarré.
D'accord, avec une belle rencontre.
Ah, voilà, encore une rencontre. Alors, c'était pas au coin d'un bar et d'un comptoir, mais presque.
Presque. Alors, aujourd'hui, ce concours, c'est un tremplin, un moteur, un accélérateur. Quelle retombée en attendez-vous?
Alors, voilà. Là, ce que l'on attend, bien sûr, c'est que tout redevienne normal pour pouvoir le commercialiser beaucoup plus facilement dans d'autres grands groupes, mais qui sont aujourd'hui très, je dirais, frileux, parce que bien évidemment, même pour eux, c'est très compliqué. Donc, on est en pourparlers avec des grandes enseignes qui nous ont dit que pour la fête des mères, ils nous mettraient à leur enseigne. Mmh. Et puis, voilà, la novation, c'est que l'année prochaine, nous allons continuer à mettre des recettes. Il y en a encore 5 dans la boîte. Et puis, il y aura une nouvelle gamme, très certainement, qui va voir le jour dans le premier semestre, qui s'appellera Signature.
C'est ça, ouais.
Voilà. Et Signature,
je voulais vous laisser dire tout seul.
Signature, c'est un module qui va, avec tous mes amis meilleurs ouvriers de France, avec mes amis qui sont 3 étoiles Michelin, eh bien, leur demander de me donner ces 3 plats signature, une entrée, un plat, un dessert. Et je vais les transformer en jeu pour que les gens puissent se prendre pour un grand chef MOF ou 3 étoiles. Et puis, le premier menu qui sera signé, ce sera signé par un ancien à moi, hein, qui a commencé avec moi à l'Hôtellerie du Nord, qui s'appelle Glenn Viel et qui aujourd'hui a dépassé le maître puisqu'il a 3 étoiles au Michelin à Beaumanière. Et bien sûr, ce sera, voilà, je dirais la roue aura fait son tour et de celui qui a donné, il reçoit.
Oui, il y a la transmission
complètement.
Au passage.
Ça continue.
Donc la success story de Devenez Chef n'est pas prête de s'arrêter.
J'espère. Écoutez, si la santé nous donne la chance de pouvoir poursuivre, l'intellect et les mains fonctionnent encore.
Bien sûr. Ces chefs, vous en avez cité un. Et est-ce que c'est eux qui viennent vers vous aujourd'hui en souhaitant faire partie du jeu?
Alors bien évidemment, comme c'est une nouvelle gamme, j'en ai 3 en attente, hein, et j'ai pas tous les nommés parce que voilà, il faut,
oui, tant que c'est pas fait, bien sûr.
Faut laisser le temps au temps. Eux, oui. Eux m'ont dit oui, j'ai pas encore leur plat, alors que Glenn m'a donné ses trois plats. Et donc oui, aujourd'hui mais ton truc c'est génial, on a vu, et donc bien sûr ça fait son tour. Hier j'étais pour une manifestation dans les salons de l'UNESCO, et un ancien jeune à moi qui vient me retrouver, qui me dit: oh Joël, formidable, il me tutoie maintenant, hein, parce que vous savez, l'âge avançant, on autorise nos poulains à nous tutoyer, parce que
ben, voilà. C'est très mode de se tutoyer.
Oui, c'est vrai, mais en plus ils nous rejoignent aussi en âge.
Oui,
ça faisait un écart au démarrage, mais maintenant l'écart se restreint.
Oui, hein. Oui.
Et donc il me dit génial ton affaire, mais tu te rappelles où est-ce qu'on s'est vu? Je lui dis oh, t'étais tout jeune, ça c'est vrai. Mais il me dit mais tu sais que tu as été mon premier chef. Donc voilà, il m'a dit à ton service. Donc je pense qu'il y en a plus d'un qui peut-être n'aurais-je pas le temps de faire autant de recettes par an pour faire plaisir à tout le monde.
Vous êtes jeune encore.
Merci.
Alain Baraton, vous connaissiez ce jeu?
Non, je ne sais pas, je le découvre avec beaucoup de plaisir, mais je suis fasciné par les grands chefs. Vraiment, j'ai la chance d'avoir créé à Versailles un potager avec Alain Ducasse.
Oui, bien sûr.
L'idée étant de fournir des légumes de qualité et prouver que l'on peut produire sans le moindre produit. Et où je suis vraiment fasciné, c'est que vous prenez un légume, quel qu'il soit, vous le donnez à quantité de chefs, ils sont tous capables de vous faire des merveilles avec des goûts différents en ayant utilisé le même produit. Et j'aime beaucoup également votre terme de plat signature. Autrefois, c'était les grands maîtres de la peinture, on les reconnaissait à leur signature. Aujourd'hui, ce sont les grands chefs cuisiniers. Comment ne pas être admiratif de leur travail?
D'ailleurs, les plats se prennent de plus en plus en photo, hein, comme des tableaux, absolument.
Exactement, oui, oui.
Vous aimez cuisiner, Alain?
Je ne sais absolument pas cuisiner. Bon. Je vais même vous faire une petite confidence, je ne devrais pas. Je me suis juré en venant ce matin de vous dire toute la vérité. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la recette de l'endive au jambon.
Oui, oui.
Et je me suis dit, il faut absolument que j'apporte un catégorique, parce que j'ai peur ensuite, après, peut-être que des gens vont m'inviter après vous avoir écouté. Le seul plat que je ne mange pas, le seul, c'est l'endive quand elle est cuite. Donc je voulais quand même le dire.
Même au maroilles.
C'est certainement très très bon, délicieux, mais l'endive, pour moi, se mange cru, assaisonné, et là, c'est une merveille.
Et si un chef arrivait à vous faire faire l'inverse et à vous faire goûter sans vous le dire, en vous disant que c'était peut-être du céleri ou que sais-je?
Je vous lance le défi, mais je pense que vous n'y arriverez pas. Peut-être que ce sont des idées préconçues. Peut-être que ce sont les endives de mon enfance à l'école.
Où c'est elles possible. Elles étaient
terribles.
Beaucoup plus amères.
Voilà, tout à fait. Mais il est vrai que autant je suis toujours admiratif de la virtuosité des chefs, mais dans le domaine de l'endive, je sais les produire, je sais les découper, je sais les préparer, mais je ne sais pas les manger.
Mais vous savez que, voilà, vous avez parlé de la cuisine de notre enfance à l'école, et c'est vrai que il y avait qu'une seule technique, on les cuisait soit à la vapeur, quand la vapeur est arrivée, mais sinon on les cuisait à l'eau.
Oui.
Et donc, on les faisait braiser, mais elles cuisaient dans leur eau, et donc bien sûr l'endive a une pointe d'amertume, et quand on fait réduire, ou quand on travaille de cette façon-là, ça donne encore plus d'amertume. Vous avez entendu la recette, il a dit vous les coupez en petits morceaux, vous les mettez dans le beurre mousseux et vous les cuisez en direct. Aujourd'hui, le grand secret même de beaucoup de légumes qu'on cuisait à l'eau avant, c'est de les cuire maintenant en direct avec leur eau de végétation à eux. Et donc, bien évidemment, là, on va se retrouver avec des facilités, soit de mijoter pour garder la concentration des goûts, comme la carotte, et avec l'endive, de mijoter un petit peu plus fort pour que l'eau s'évapore le plus rapidement possible. Et après, bien sûr, comme je vous dis, c'est les parfums qu'on va mettre dedans qui vont vous faire peut-être changer.
Ce qui est extraordinaire avec les grands chefs, c'est que même en vous parlant d'un plat que apparemment vous ne supportez pas trop, ils sont capables de vous mettre l'eau à la bouche. C'est un petit peu, vous arrivez dans un restaurant, on vous présente le menu, arrive le maître d'hôtel et il vous explique le plat. Ce n'est plus une explication, c'est une chanson, c'est une poésie, c'est une merveille.
Et vous avez raison de le dire.
Très bien.
Le maître d'hôtel vient et vous explique, et sans le maître d'hôtel en salle, sans les gens qui travaillent avec nous et autour de nous, eh bien la cuisine ne reste qu'une cuisine. Et donc merci de le saluer, et je continue à le saluer également de mon côté. Merci aux gens de salle et tous ceux qui s'occupent de vous quand vous venez dans nos établissements.
Merci Joël Boileau de le rappeler. Je vais quand même poser la question à Karine aussi. Karine, vous connaissiez le jeu?
Alors,
de Devenez Chef?
Pas du tout, c'est une très belle découverte. Moi, j'ai des enfants de 14 et 17 ans, et c'est vrai qu'on se retrouve plus vraiment sur certains temps. le numérique a pris le pas et je trouve que c'est une formidable idée justement pour réunir. Et je vais m'acheter ce jeu de façon à pouvoir en profiter avec eux, peut-être aussi avec mes parents, enfin de façon à ce qu'on puisse se retrouver dans un moment familial et convivial, parce qu'on est très gourmands chez nous, donc ça devrait plaire à tout le monde.
Je crois qu'il faut dire que c'est une formidable idée de cadeau pour Noël, donc à un prix qui reste quand même très attractif.
Alors, je vais rebondir sur deux choses. Vous avez parlé de vos jeunes, qui bien sûr sont une cible pour moi, mais beaucoup de gens me disent, mais est-ce que les enfants peuvent jouer? Alors, sur la boîte, vous verrez, c'est marqué interdit aux moins de 12 ans, tout simplement, parce que la législation française vous impose, dès qu'il y a des couteaux ou des choses, de préserver nos enfants. Mais si un enfant sait lire, donc 7-8 ans, bien sûr sous surveillance et avec les parents, il y a plein de missions qui peuvent être faites. Donc on peut les déléguer et puis être avec eux et tout ça. Donc c'est un jeu qui est participatif même avec des enfants. Et il y a un module qui est le module pâtisserie dans lequel nous allons, pour l'instant il n'y en a qu'un, mais il y en aura d'autres dans l'avenir. Et les enfants sont très friands pour les 4 heures avec les copains et tout ça, pour occuper les longues journées d'hiver et maussades.
Non, c'est une excellente idée. Bravo.
Et pour ce qui est du prix, vous savez, nous avons été très, très, très violents parce que, bien sûr, vous savez que toutes les startups doivent s'enrichir très rapidement. Mmh. Et, ben, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit non, on mettra du temps. Et le jeu est vendu 19,90 €. Donc, vous voyez que ce n'est pas mortel.
C'est un prix très,
et puis,
très
comme nous avons eu le concours Lépine, nous avons fait une promotion pour toute cette fin d'année sur les sites internet, mais également en magasin. Vous achetez deux jeux. Le troisième vous est offert. Ça fait 13,30 € le jeu. Ça fait des petits cadeaux intéressants.
Absolument.
À mettre sous le sapin.
Ah oui, on va remplir les sapins. Enfin, sous le sapin, il va y avoir beaucoup de devenez chef. Joël Boileau, une dernière question. Vous envisagez une levée de fonds? Est-ce toujours d'actualité?
Alors, c'est pas tout à fait une levée de fonds. On est en pourparlers. J'espère c'est avec un entrepreneur du Val d'Oise, peut-être une association plus importante et avec un changement à la tête pour être plus équitable. C'est dans les tiroirs. On s'est encore parlé hier soir. Il attend une petite réponse pour former l'équipe complète, mais je serai toujours là pour être celui qui fera les recettes.
Très bien. Merci beaucoup, Joël Boileau. Je sais que vous avez un rendez-vous à, je crois, Massy.
Oui, je pars à Massy-les-Palaiseaux parce que le comité d'entreprise de Danone nous a fait le plaisir de prendre notre jeu pour mettre sous le sapin de toute leur partie, une partie de Danone, pas la totalité du groupe Danone, mais nous a fait confiance. Et il faut savoir aussi que Danone, lorsque nous faisions les levées de fonds et tout ça, a été une entreprise avec une de ses directrices qui nous a coachés, qui nous a beaucoup aidés. Et bien voilà, ils ont été jusqu'au bout et ils nous ont fait confiance pour les cadeaux de fin d'année. Et donc voilà, j'apporte ça pour les livrer, pour être sûr que tout le monde l'est sous le sapin.
Ah bah écoutez, bravo pour toute cette belle énergie. Hein. Merci d'être venu, Joël, nous résumer. Et puis bon, je sais que vous reviendrez pour nous raconter toute la suite de cette belle aventure.
Merci à vous, Jacqueline. C'est vrai que vous aussi, vous nous avez suivis depuis le démarrage, depuis qu'on a fait les piou-piou.
Oui.
Et puis, comme il y aura un avenir, je viendrai vous raconter un peu la suite.
Ah oui, avec grand plaisir. Et je rappelle que Devenez Chef est une formidable idée de cadeau, je l'ai dit, pour Noël. Originale et très abordable financièrement. À bientôt, Joël.
À très vite et joyeuses fêtes à tous.
Merci, vous également.
IDFM vous propose une rediffusion.
A woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe, baby. hips and waist. Self and my knee with grace. I touch your soul when you hear me say, boy, let me be a woman. A motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people of the opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a guy without the goddess. As honest as fucking honest, kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenton. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine.
Woman, let me be a woman.
Vous propose une rediffusion.
Nous sommes dans l'économie en direct sur IDFM 98 ou radio IDFM 98.fr. Et ce matin, coup de projecteur sur Karine Eudre, directrice du GEC Île-de-France, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles, écrivain, chroniqueur de télévision et de radio. Rebonjour Karine Eudre. En octobre, je recevais Bertrand Biéchy, qui vous avait alors chaleureusement recommandé, et il a bien fait, puisque avec vous, nous allons en savoir plus sur ce collectif d'entreprises qui est un GEC, et dont il est dit que c'est la plus belle façon d'embaucher.
Très bien, merci beaucoup de votre invitation, et merci à Bertrand de nous avoir mis en contact. Donc, oui, les GEC, ce sont des structures associatives. Des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
Oui.
Donc ce sont des associations d'entreprises à but non lucratif. Des GEC, il y en a 200 en France, à peu près, dans différents domaines d'activité. Donc ça peut être le service à la personne, ce qui sera dédié à l'industrie, le bâtiment, les travaux publics, tout ce qui peut être restauration également. Et en fait, le principe d'un GEC, c'est de pouvoir apporter un service RH externalisé auprès de nos adhérents, qui sont nos patrons,
oui,
les entreprises. Et pour notre part, le GEC Île-de-France, qui fête ses 15 ans cette année, est spécialisé dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'énergie. Donc, notre métier, c'est d'aller à la recherche de publics intéressés, éloignés de l'emploi, de façon à pouvoir les intégrer au sein de notre structure, les embaucher, les rémunérer et surtout les former en alternance. On part du principe qu'aujourd'hui, nos entreprises ont des besoins de main-d'œuvre.
Oui.
Elles ne trouvent pas cette main-d'œuvre qualifiée. Il faut leur apporter une solution. Et pour les entreprises, leur vision sociale est de pouvoir inclure le public éloigné de l'emploi. Qu'est-ce qu'on appelle le public éloigné de l'emploi ? Ça peut être des jeunes non diplômés ou avec un diplôme inapproprié au marché. Ça peut être des adultes chômeurs de longue durée, des bénéficiaires des minima sociaux, des travailleurs handicapés et aussi des primo-arrivants. Donc on s'occupe des personnes réfugiées. On a aussi travaillé avec des personnes réfugiées.
D'accord. Et comment... alors donc on a bien compris que l'idée c'est d'aller chercher ces personnes sans expérience, hein, un tremplin professionnel qui permet aux demandeurs d'emploi de se qualifier, de retrouver un emploi durable. Mais comment allez-vous les chercher, ces personnes ?
Alors nous avons un réseau, nous, de partenaires sur tout le territoire d'Île-de-France. Ces partenaires, en fait, ce sont le Pôle emploi, des missions locales, des associations dédiées à l'emploi, de la cooptation de la part de nos salariés. On a aussi beaucoup de partenaires sur les territoires qu'on appelle des facilitateurs.
Oui.
Et ces facilitateurs, en fait, sont en lien avec les différents acteurs de l'emploi et nous mettent en réseau.
C'est ça.
Fait.
C'est ça. En fait, quand une personne a, on va dire, exploité tous les filons pour trouver un emploi et qu'elle n'a rien trouvé, elle peut se tourner vers un GEC.
Tout à fait. Et l'avantage du GEC, c'est aussi de pouvoir proposer des formations adaptées au public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation nationale parfois perd certaines personnes parce qu'ils ne sont pas, ils se sentent pas inclus dans cette démarche. Nous, nous adaptons en fait tout l'apprentissage majoritairement sur des plateaux techniques. Et donc, nos salariés du GEC apprennent par le geste, ce qui simplifie beaucoup les choses et ce qui aussi leur permet d'être très concrets face à leur métier. Comme ils sont en alternance, ils vont aussi au sein de l'entreprise, donc ils sont accueillis au sein de l'entreprise avec un tuteur qui s'occupe d'eux. On les intègre dans une équipe et donc la poursuite de l'apprentissage se fait aussi sur le terrain.
C'est ça. C'est ça. Le but, c'est de viser une qualification.
Tout à fait. Donc ça peut être une qualification, ça peut être un diplôme, ça peut être un titre. L'objectif, c'est surtout de leur apporter un savoir-faire, un vrai métier entre les mains. Et après, à l'issue du parcours au sein du GEC, une embauche pérenne dans les entreprises. Il faut savoir que pour nous, c'est environ 80% de personnes en parcours qui sont embauchées à l'issue au sein des entreprises.
C'est la question que j'allais vous poser. Oui.
Donc c'est vraiment une démarche extrêmement inclusive
et positive,
positive pour le public et pour les entreprises.
Alain Baraton, ce style de recrutement vous parle ?
Me séduit. On parle d'alternance, on parle d'apprentissage, on parle de parcours, on parle d'entreprise. Ce sont des mots-clés. Quand on sait qu'aujourd'hui, on recherche partout des centaines de milliers de salariés que l'on n'arrive pas à recruter, voilà une solution peut-être pour aller chercher là où ils sont les personnes en difficulté. La difficulté aujourd'hui, ce n'est pas seulement de recruter, c'est de former, c'est d'encourager, c'est d'accompagner. Et ce genre d'association, justement, accompagne, ce qui permet à la personne en difficulté d'aborder le monde du travail avec davantage de sérénité, mais l'employeur aussi, parce qu'il se sait secondé.
Absolument.
Il n'est pas tout seul face à une montagne administrative. Mmh. Et je ne peux moi vraiment que souscrire à tout ce qui, à toutes ces actions, toutes ces initiatives. Il y a 40 ou 50 ans, face à la pénurie de main-d'œuvre, on se retournait vers l'étranger et on faisait venir sans se soucier du devenir des malheureux que l'on allait chercher. Aujourd'hui, c'est le système totalement inverse, et je trouve ça extraordinaire, sans apparemment, et j'en suis heureux, se soucier des origines. Vous parliez des primo-arrivants, sans se soucier du niveau d'intellect, en encourageant le travail handicapé. Je trouve ça merveilleux, donner une chance à ceux qui en ont vraiment le plus besoin.
Merci Alain pour ce témoignage. Vous, Karine Eudre, donc votre GEC est spécialisé dans le BTP. Cela veut dire que vous êtes en lien étroit avec la Fédération française du bâtiment.
Alors oui, nous sommes en lien avec la Fédération française du bâtiment et aussi le syndicat des travaux publics. On met en place des programmes ensemble et des groupes de formation de façon à pouvoir répondre aux besoins de la profession. On travaille aussi beaucoup sur l'accompagnement social.
Oui.
Ça fait partie de nos prérequis. Nous allons à la rencontre de nos salariés sur le terrain, ainsi que les tuteurs. Et notre objectif, en fait, c'est de lever tous les freins à l'emploi.
Oui.
Donc, en Ile-de-France, nous avons une problématique majeure qui est celle du logement. On accompagne nos salariés sur tout ce qui va être, justement, recherche de logement, monter les dossiers de logement, etc.
Ah oui, vous donc, les de A à Z, vous les accompagnez.
C'est
ouais,
ça, exactement.
Ouais. Vous proposez, c'est vous qui proposez les contrats aux salariés ?
Alors nous allons à la recherche de candidats,
oui,
uniquement si nous avons des offres d'emploi. Ils ne sont jamais en difficulté. Parfois on rencontre des alternants qui ont une école mais pas l'entreprise. Mmh. Chez nous ça se passe pas comme ça. C'est d'abord une offre d'entreprise qui nous permet ensuite d'aller à la rencontre des candidats, leur proposer ces formations et de mettre en œuvre l'alternance par la suite.
Vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise.
Oui.
Voilà.
Alors, j'ai vu que, dans préparant l'émission, vous disiez que les femmes sont les bienvenues dans le BTP, surtout, j'imagine.
Alors, dans le BTP, elles sont les bienvenues. Nous avons beaucoup de femmes, d'ailleurs,
oui,
actuellement.
Il me semblait qu'il y en avait de plus en plus.
On a 16% de femmes dans notre effectif, et c'est énorme en fait. Hein. Aujourd'hui, on forme des femmes au métier de coffreuse-mancheuse. On va former des femmes aussi sur les métiers de voirie. Et il faut savoir qu'elles sont ravies. Elles sont intégrées au sein des entreprises. Elles ont une place qui leur appartient au sein des équipes. C'est un milieu soi-disant masculin, mais nos équipes masculines sont ravies aussi de voir l'arrivée des femmes.
Oui.
Et aussi, c'est une avancée pour ces métiers-là, puisque l'objectif étant que les charges, par exemple les charges lourdes ou les conditions de travail soient améliorées, le fait d'intégrer des femmes,
oui,
ça améliore les conditions de travail pour tous. Et donc, ce sont aussi des avancées pour la société en tant que telle.
C'est ça, ça oblige les constructeurs à repenser les moyens de levage et ainsi de suite.
Tout à fait, donc
ouais,
c'est vraiment extrêmement intéressant pour,
ouais, ouais,
pour tous.
C'est une chaîne qui marchait bien. Aujourd'hui, Karine Eudre, quels sont vos besoins ?
Alors aujourd'hui, nous recherchons des candidats pour travailler sur des métiers d'ouvriers, pour être formés donc au coffrage, à la voirie. Et aussi, là, nous avons une action actuellement avec le syndicat Actibé, donc qui fait partie de la FFB, et nous recherchons des personnes pour devenir storistes et poseurs de volets roulants.
D'accord.
Il y a une action qui va débuter là très prochainement.
Très bientôt, mmh, très bientôt. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient justement postuler à ces postes, que doivent-ils faire ?
Eh bien, ils peuvent nous contacter sur notre site internet, déjà, ou bien nous passer
donc
un
tapez GEIQ, G-E-I-Q.
GEIQ, Île-de-France.
Île-de-France,
et
oui,
là, vous nous trouvez facilement. Il y a toutes nos coordonnées et vous pouvez aussi postuler en direct sur le site.
Très bien. Je crois que vous avez une actualité également à nous annoncer.
Alors,
c'était les 15 ans
oui,
du GEIQ.
On vient de fêter les 15 ans du GEIQ. On a organisé une petite fête à cette occasion, durant laquelle on a fait une petite rétrospective de nos salariés. Il faut savoir que des salariés du GEIQ sont passés des chefs.
Oui.
Et maintenant, ils tutorent d'autres salariés GEIQ.
Oui.
Donc, on voit la progression. On est très fiers d'eux.
Il y a la transmission, quand même.
C'est ça.
Oui.
On est très fiers d'eux. Le GEIQ, 15 ans, c'est 2000 salariés qui sont passés au sein de notre structure et qui ont été accompagnés. Donc, c'est très glorifiant.
Bien
et
sûr.
Puis, saluons les entreprises qui sont qui sont inclus là-dessus et qui font aussi l'effort d'accueillir. Parce que c'est aussi un travail que d'accueillir du public et de le faire bien, ça n'a pas de prix.
Bien sûr.
Et c'est ce qui crée aussi cette relation de confiance entre nos salariés et les entreprises qui les accueillent.
Oui, ça crée un lien indéfectible et oui, c'est clair. Karine, je sais que vous vouliez intervenir également sur les mesures de l'État mises en place pour favoriser l'emploi.
Alors effectivement, là on bénéficie, et toutes les entreprises peuvent en bénéficier, d'aides dédiées aux jeunes et aux chômeurs de longue durée. Et nous avons vraiment, je pense, l'État, cette chance de pouvoir en profiter. L'État a mis le paquet, il faut le dire, pour pouvoir intégrer les jeunes. Et aujourd'hui, je pense, les résultats sont probants.
Oui.
Beaucoup de jeunes ont pu rentrer en alternance grâce à ces mesures. Et aujourd'hui, ils ont aussi déployé une aide dédiée aux personnes de plus de 30 ans chômeurs de longue durée. Et ça incitera aussi les entreprises à pouvoir les accueillir et à les amener à un métier sur lequel il y a de l'emploi.
Oui, même si aujourd'hui, avec la pandémie, on dit que le recrutement est devenu quand même assez difficile.
C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Ce qui est très curieux, c'est que finalement, partout sur le territoire français, quel que soit le domaine d'activité, on peine à trouver des candidats. Donc, à nous de leur donner envie de venir travailler dans notre profession et de faire connaissance et de pouvoir attiser leur curiosité.
Merci Karine Heude pour tous ces éclairages et puis bravo de défendre si bien les valeurs de ce collectif d'entreprise. Je rappelle que toutes vos informations pourront être réécoutées sur le podcast de l'émission sur idfm98.fr.
Merci beaucoup.
On fait une nouvelle petite pause avant de retrouver très vite Alain Baraton, mon troisième invité. À tout de suite.
IDFM vous propose une rediffusion.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, hey. I want you, baby, hey. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
Tonight.
IDFM98.fr, c'est l'économie en direct. Ah, j'ai perdu ma ligne, voilà. Oui, voilà. Après avoir parlé avec Joël Boileau de Devenez Chef, cette invention récompensée il y a quelques jours par une médaille d'or au concours Lépine, après avoir découvert avec Karine Eudre le concept et fonctionnement des GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, je me tourne vers vous, Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du Château de Versailles, écrivain, chroniqueur de télévision sur France 5 dans Samedi à tout prix et chroniqueur de radio sur France Inter le samedi et dimanche. Et ce que ma première question, Alain Baraton, c'est que vous revendiquez le titre de jardinier.
Oui, le plus noble des métiers, ce n'est pas moi qui parle, c'est Voltaire. Lorsque j'ai débuté dans la corporation il y a maintenant près de 40 ans, c'était en 1976, ma famille, pas très heureuse de mon choix professionnel, me surnommait la bouse. Vous voyez que c'est quand même pas très aimable. Et puis depuis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mais surtout, j'ai tenté de revaloriser ce métier qui est extraordinaire. On entendait tout à l'heure un chef parler de gastronomie. Que serait la gastronomie française sans des jardiniers capables de produire les meilleurs légumes du monde? Donc je revendique effectivement ce titre de jardinier. Vous savez, le terme de paysagiste auquel vous pensez certainement m'insupporte au plus haut point. J'estime, alors je le dis avec un peu de provocation, j'en conviens, mais le paysagiste est pour le jardinage ce que le visagiste est au coiffeur. Arrêtons d'employer des mots qui ne veulent rien dire. Dans le mot jardinier, il y a le mot jardin. C'est joli comme terme, le jardin. Le paysagiste est supposé transformer le paysage. Croyez-vous vraiment que si demain, dans votre propriété, j'installe 3 malheureux troènes, je vais changer le paysage? Je ne crois pas. Alors, appelons un chat un chat. Je suis un jardinier et je le revendique.
Alors, vous étiez venu il y a quelques années faire une conférence à Enghien sur les arbres, à laquelle j'avais eu la chance d'assister. Et si je n'ai pas tout retenu, je me souviens très bien de votre explication concernant le pourquoi des feuilles qui tombent à l'automne. J'aimerais bien que vous nous racontiez ça à nouveau.
Mais un petit cours de botanique ne peut pas faire de mal. Alors, je vais essayer d'être clair, précis dans mes propos pour bien comprendre la subtilité, parce que c'est un processus, bien entendu, très complexe que je simplifie. Pour se nourrir, une plante absorbe avec les racines les sels minéraux contenus dans la terre. Elle utilise l'eau comme conducteur. L'eau est attirée vers les feuilles qui agissent comme des petites pompes avec les stomates pour qu'en contact avec le soleil et le gaz carbonique, cette sève qui est donc montée se transforme avec la photosynthèse en une sève élaborée, assimilable par les tissus de la plante, donc de la nourriture. Et là, la sève redescend et nourrit le végétal. Voilà le cycle normal d'une plante, tout en permanence. Mais en automne, le végétal anticipe l'arrivée du froid, de l'hiver et du gel qui rendrait impossible d'absorber l'eau dans la terre, l'eau étant gelée. Alors que fait le végétal pour ne pas souffrir de ce manque d'eau? Il se place en dormance et pour ce faire, produit à la base de la feuille, le pétiole, un petit bouchon de liège. Je crois que vous étiez resté sensible à ce petit bouchon. Un petit bouchon de liège qui empêche la feuille d'être alimentée en sève. Privée de sève, la feuille continue de se nourrir en consommant la chlorophylle qui est de couleur verte. La chlorophylle disparaît au détriment des autres pigments, rouge, jaune, orangé. Voilà pourquoi les feuilles prennent des couleurs à l'automne, pourquoi ensuite elles sèchent et elles tombent. Et la sève qui n'alimente plus les feuilles va se stocker dans les tissus du bois pour permettre au printemps suivant le démarrage printanier et produire en quantité immense quelques feuilles très rapidement. Voilà donc pourquoi effectivement les plantes sont capables de percevoir le temps qu'il va faire, l'arrivée des saisons et comment ils sont capables de se mettre en dormance.
Magnifique, écoutez, c'est une très belle histoire et vous la racontez très très bien. Vous êtes justement également auteur avec à votre actif plusieurs ouvrages, dont un dictionnaire amoureux des jardins et tout récemment un dictionnaire amoureux des arbres, tous deux parus chez Plon. Au passage, une belle idée aussi de cadeau pour Noël. Moi, je l'ai commandé pour Noël,
le dictionnaire
des arbres. Alors, vous dites, c'est en découvrant le parc de Versailles que je suis devenu un amoureux des arbres. Je n'avais certes pas attendu mon entrée dans la vie active pour les aimer, mais je ne les regardais pas attentivement. Ils faisaient simplement partie de mon décor.
Oui, j'arrive à Versailles en 1976. Je suis d'abord recruté comme caissier, puis comme aide jardinier. Et je tombe amoureux de ce domaine, non pas pour les pelouses qui ne m'inspirent que moyennement, non pas pour les massifs de fleurs qui, là encore, ne me parlent beaucoup. Un géranium ou un œillet d'Inde, honnêtement, n'a pas grand-chose à me raconter. Je tombe amoureux de Versailles pour son histoire, pour la beauté des statues, de la fontainerie, du château bien sûr, mais également pour ses arbres. Comment ne pas être ému quand on a devant soi des arbres qui ont connu Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI et qui sont là et qui semblent défier le temps. Donc ce ne sont peut-être pas les arbres qui m'ont donné envie de travailler à Versailles, mais c'est incontestablement eux qui m'ont donné envie de rester à Versailles.
De rester, oui. Alors pour vous, les arbres sont des êtres vivants avec des réactions proches de celles des humains. Vous dites même que là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie.
Oui, bien sûr, ce sont des déserts. Alors je ne parle pas des océans, bien évidemment, mais un arbre, ce n'est pas que pour moi, c'est un être vivant qui va naître de la fécondation de deux arbres ou d'un arbre qui était capable, eh bien, de s'amuser de son côté hermaphrodite. Ils vont se développer, ils vont se multiplier, ils vont transpirer, ils vont respirer, ils vont mourir. Ce sont donc des arbres, des êtres vivants. Et effectivement, les arbres sont absolument extraordinaires, d'où ma passion.
Oui, alors Alain, je crois que tout le monde est d'accord, hein, Karine, vous avez un vrai talent de conteur. En tout cas, moi, je ne m'en lasse pas. J'aimerais bien que vous nous racontiez quelques anecdotes. Alors, j'en ai relevé certaines. Est-ce qu'on pourrait commencer par celle du chêne de Marie-Antoinette ?
C'est une histoire qui est assez émouvante, parce que ce chêne de Marie-Antoinette s'appelait ainsi parce qu'en 1776, le roi Louis XVI ordonne l'abattage de tous les arbres du parc, du moins du petit parc de Versailles, pour une régénération devenue indispensable. Et il y a un survivant, un miraculé, un rescapé, qui est ce chêne. Et la légende dit, légende ou réalité, allez savoir, que Marie-Antoinette aimait profiter de son ombrage quand elle allait près du petit Trianon se reposer. Toujours est-il que cet arbre a vraiment été planté sous Louis XIV et a bien connu Marie-Antoinette. En 1999, il est rescapé, là encore, de la tempête. Il résiste au vent furieux, mais les arbres autour de lui, eux, sont morts, sont tombés, n'existent plus, ce qui fragilise ce végétal. Et en 2003, il meurt de la canicule. Il avait éliminé quantité de ses feuilles pour lutter contre la canicule. Malheureusement, il n'aura pas suffisamment de force pour en reproduire avant l'automne. Il va donc mourir. Eh bien, cet arbre, qui a contribué à la beauté de Versailles pendant presque 400 ans, même mort, a continué de servir le domaine. Car lorsque nous l'avons sorti de son bosquet pour l'exposer tel un gisant devant le Grand Trianon, un homme, Nicolas Hayek, le propriétaire des montres Swatch et Breguet, a été ému et il a fait un don pour Versailles en hommage au chêne de Marie-Antoinette, un don de plusieurs millions d'euros. Si aujourd'hui, le petit Trianon, le jardin français, le pavillon français et une partie du domaine de Trianon a été restauré, c'est grâce à un chêne qui, autrefois, était l'arbre préféré de Marie-Antoinette.
Oui, et à l'époque, vous aviez envisagé de le donner, alors que la directrice du parc...
Oui, on m'avait effectivement reproché d'avoir fait don d'un morceau de bois à M. Hayek, qui souhaitait à l'époque recréer les montres de Marie-Antoinette, 6 exemplaires, la montre de Marie-Antoinette étant considérée comme la plus précieuse et la plus complexe au monde. Elle a été volée dans les années 1940. Il y avait donc ce projet réalisé d'ailleurs, de fabriquer 6 montres et les offrir à un musée. Et j'avais offert à M. Hayek une partie du tronc pour qu'il puisse présenter cette montre dans un écrin en bois provenant du chêne de Marie-Antoinette. Et il est vrai qu'à l'époque, on m'avait quelque peu houspillé d'avoir préféré donner le bois plutôt que de le vendre. Et j'ai eu, je crois, raison, car M. Hayek, sensible à mon geste, a fait un chèque, je crois, de 4 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien.
Oui, c'était un morceau de bois, finalement, oui, qui rapportait
tout à fait.
Pas mal.
Et nous avons laissé la souche de ce chêne en évidence devant le petit Trianon pendant de très longues années, et nous l'avons retiré il y a un an à peine, parce qu'il faut être capable de tourner la page. Alors la souche n'est pas détruite, elle vit dans un endroit tranquille, dans un bosquet du Grand Trianon, mais aujourd'hui, l'heure est à la replantation générale. Nous continuons de planter des arbres. Nous avons planté l'an dernier, par exemple, un alignement de 450 chênes au fond du parc, dans l'allée de Saint-Cyr. Donc nous continuons de planter, et j'en suis bien sûr très 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 heureux.
Oui, il y a aujourd'hui un vrai engouement pour replanter. Ça vous fait plaisir?
Oui, parce que il est peut-être bon de temps en temps de donner quelques conseils à ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, on entend des mesures à prendre sur 20, 30, voire 40 ans. On nous explique ce qu'il ne faut pas faire. On nous parle de l'avion, on nous parle du train, on nous parle de l'empreinte carbone, on nous parle d'argent. On pourrait peut-être de temps en temps, au lieu de s'embarrasser de détails, planter des arbres. Car si vous plantez quantité d'arbres, vous faites réduire mécaniquement la hausse des températures. nature, sauf que planter des arbres ne demande pas de diplôme en particulier, demande simplement un petit peu de volonté, et apparemment ça déplaît à nos politiques qui aiment bien tout compliquer. Donc de grâce, arrêtez de dire n'importe quoi, plantez des arbres et vous verrez que le monde ira déjà beaucoup mieux.
Alors parmi les anecdotes, j'en ai sélectionné une autre que je trouve aussi tout autant savoureuse, l'histoire du séquoia John Bidwell.
Je vois que vous avez beaucoup de mémoire, j'adore cette histoire également.
J'ai bien travaillé.
Parce que quand je regarde les arbres, je sais qu'ils ont des histoires à me raconter. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué le dictionnaire amoureux des arbres.
Oui.
C'est justement ce que j'ai voulu faire, raconter l'histoire des arbres, parce que derrière un arbre, il y a souvent une très belle histoire. Et l'histoire du séquoia est certainement l'une des plus belles histoires du monde végétal. Nous sommes en 1844 et un homme, John Bidwell, traverse les États-Unis. Cet homme est un nouveau colon, ce que vous appelleriez vous, Karine, un nouvel arrivant. Et cet homme fait tous les métiers. Il a été barman, il a été militaire, il a été contrebandier. Et là, il s'est mis comme objectif de faire traverser d'est en ouest les nouvelles personnes venant d'Europe qui souhaitent s'installer sur le continent américain. Il est une sorte de guide. Et en traversant la Californie, il tombe dans une forêt, le peuplement Calaveras, une forêt plantée d'arbres géants. Il est absolument admiratif, il n'en croit pas ses yeux, il est persuadé d'avoir fait une découverte de première importance et il écrit à l'Académie botanique des États-Unis et les personnes sur place en rigolent. Si des arbres étaient aussi grands que Bidwell le prétend, ça se saurait et depuis longtemps. Bidwell est un petit peu contrarié de n'avoir pas de réponse. Il écrit à la Société botanique de Londres, même réponse, si des arbres étaient aussi majestueux, on le saurait depuis longtemps. Fort heureusement, en Angleterre, deux hommes, les dénommés Matthews et Loeb, eux connaissent Bidwell. Ils l'avaient rencontré auparavant. Ils savent que le type est un peu bizarre, mais ils savent qu'il n'est pas non plus complètement détraqué. Et ils décident de suivre ses recommandations et ils partent à leur tour sur les traces des séquoias géants. Et ils retrouvent la forêt et ils tombent admiratifs. Imaginez des arbres qui dépassent 110 mètres de haut, qui ont des poids de plusieurs centaines de tonnes, des troncs d'une dimension absolument gigantesque. Et les deux Anglais n'ont plus qu'une idée, une seule, faire revenir en Angleterre des jeunes plants et des graines. Ils le souhaitent, mais il y a un problème, et il est de taille, c'est que la forêt est sous le contrôle des Indiens Cherokee, et que ces Indiens, eh bien, vouent un arbre, un culte pour ces arbres énorme, on n'y touche pas.
Alors, pour eux aussi, ce sont des êtres vivants.
Tout à fait, mais il y a, dans cette tribu des Indiens Cherokee, un Indien qui s'appelle André Giste. André Giste s'appelle ainsi parce que sa maman est peut-être indienne, mais son père, lui, était d'origine allemande. Et André Giste est un savant, c'est un intellectuel. Il a entre autres inventé l'alphabet Cherokee. Et il va réussir à convaincre ses frères indiens de contribuer à l'apport de la science pour les deux Anglais. Grâce à André Giste, nos deux Anglais retournent en Angleterre avec des graines et des jeunes arbres. C'est un triomphe incroyable. Et immédiatement, l'arbre est baptisé Washingtonia en hommage à George Washington. Mais là encore, il y a problème. C'est que Washingtonia désigne déjà un arbre, un palmier. Il faut donc trouver un nouveau nom. Et au moment de réfléchir sur le nouveau nom, Loeb et Matthews apprennent que George Giste et toute la tribu ont été massacrés par les Blancs en Amérique, qui ont été choqués de savoir que des sauvages, entre guillemets, avaient osé converser avec la civilisation. Alors, pour rendre hommage à André Giste, on va nommer l'arbre Sequoia, le nom indien d'André Giste.
D'accord, oui. Bah, écoutez, c'est une belle histoire et on ne regardera plus du tout les séquoias de la même façon.
Mais quantité de plantes, quand vous regardez le Magnolia, souvenez-vous de Pierre Magnol, qui fut directeur du jardin botanique de Montpellier au XVIe siècle. Pensez à Joseph Camel avec le camélia. Souvent, souvent, quand une plante se termine par IA, pas toujours, mais souvent, il y a un grand homme derrière, le bégonia, monsieur Bégon, le forsythia, monsieur Forsyth. Vous avez quantité de plantes qui, effectivement, rendent hommage à des hommes. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup d'arbres qui rendent hommage aux femmes. C'était une époque où les femmes n'étaient pas très, comment dire, malheureusement, acceptées dans le monde des scientifiques. Il n'y en a qu'une qui était vraiment extraordinaire et qui s'appelait Jeanne Barret, qui était une femme qui était tombée amoureuse, non pas de Commerson, le botaniste, mais de son travail, et qui a réussi à se faire passer pour un homme pour embarquer à ses côtés sur les navires de Bougainville et ainsi partir à la conquête botanique du monde entier.
Racontez-nous, racontez-nous.
à Jeanne Barré. C'est une histoire extraordinaire. Quand Commerçon est recruté par Bougainville pour partir faire une croisière autour du monde, elle qui a aidé Commerçon à trier, à classer, à herboriser, elle ne peut pas monter à bord. Et sans prévenir Commerçon, elle se déguise en homme. Et elle arrive pendant quelques jours à faire croire qu'elle est un garçon. Malheureusement, elle est découverte en haute mer. Elle aurait dû être débarquée au Brésil. Il n'en est rien. Elle deviendra la chouchoute de tout l'équipage, une sorte de mascotte en quelque sorte. Commerçon aurait dû être sanctionné, il ne l'a pas été. Mieux, quand elle arrivera en France, elle sera même remerciée par Louis XVI et recevra à vie une pension. Et Jeanne Barré est la seule femme botaniste du XVIIIe siècle et la première femme à avoir fait le tour du monde.
Bravo. Alors, je vous pose encore une question. On a encore quelques minutes pour converser. Aussi, l'histoire du pommier. J'ai trouvé, le pommier qui fait des fruits pour se protéger.
Mais oui, parce qu'on a toujours tendance à croire que la pomme est là pour vous faire plaisir et vous nourrir, mais pas du tout. Quand le pommier a eu l'idée il y a très longtemps de fabriquer des pommes, c'était pas du tout pour vous plaisir, pour votre plaisir et vous nourrir. C'était pour se sauver. Vous avez raison de le souligner. Le principe, il est simple. La plante sait que si elle produit une graine qui tombe à son pied, la graine va germer et risque de le concurrencer. Une fois adulte, deux arbres au même endroit, il y en a forcément un de trop. Donc le pommier n'a pas envie de produire un végétal qui va plus tard lui nuire et il ne pourra même pas naître dans de bonnes conditions. Il va manquer d'eau, de lumière, etc. Alors la nature a eu la bonne idée d'inventer la pomme. La pomme, c'est une protection autour des pépins qui nourrit la graine pendant qu'elle mûrit. Quand la graine est enfin arrivée à date de maturité, la pomme devient un fruit sucré et juteux qui tombe pour mettre en contact avec le sol les pépins. Mais elle est tellement bonne et fruitée qu'un animal ou un homme vient ramasser la pomme pour aller la manger. Mais plus loin, l'animal ne reste pas sous le pommier. Même vous avez une pomme que vous cueillez sur un arbre, vous ne restez pas sous le pommier. Vous partez, vous marchez avec, et c'est une manière qu'a mis en place le pommier pour éloigner les pépins de son tronc. La même chose avec le cocotier en bord de mer qui penche au-dessus de l'océan, oui, dans l'espoir que la noix tombe dans l'eau et aille coloniser une terre lointaine. Les plantes ont mis en place des stratégies incroyables pour conquérir toujours davantage de territoire et assurer leur propre sauvegarde.
C'est toutes ces histoires que l'on retrouve dans votre dictionnaire amoureux des arbres?
Oui, parce que ce sont des histoires que je trouve extraordinaires. Oui. Les plantes sont capables de communiquer, les plantes nous rendent des services incroyables. Le bois que les arbres nous fournissent sont capables de vivre une éternité. Et puis j'ai découvert surtout que l'arbre lui-même était un symbole d'éternité. Si je vous dis maintenant, là, à votre micro, quel est l'âge de l'arbre le plus vieux de France, du monde, certains risquent de se dire que je suis maintenant sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, et il n'en est rien. Cet arbre a été découvert il y a une vingtaine d'années dans un bosquet au nord de la Norvège. Le scientifique russe qui installe ces appareils complexes, c'est ce qu'on appelle de la dendrochronologie magnétique et électronique. On compte les cernes à travers un appareil incroyable qui va compter ainsi l'âge du végétal.
Un peu comme le carbone 14.
Voilà, tout à fait. Oui. Il l'utilise aussi quand son premier appareil lui donne un chiffre, il est tellement sidéré qu'il utilise le carbone 14. Et là, il se dit, il y a une erreur, je suis devenu fou. Alors il fait appel à des confrères américains qui viennent au pied du vieil arbre, qui font les mêmes examens, mais qui font les mêmes constatations. Arrive donc une équipe de scientifiques européens qui, là encore, en arrive au même constat. Ce sapin, donc, qui vit dans un endroit protégé aujourd'hui et caché pour éviter le vandalisme, est âgé de suspense, 9500 ans. Il est donc l'arbre le plus vieux du monde, 9500 ans. Alors je vous pose une question, Jacqueline. Est-ce que cet âge, est-ce qu'on ne frôle pas déjà un peu l'éternité?
Oui, absolument, absolument. Et aujourd'hui, il est chouchouté, enfin, il est bien...
Alors, il est observé, il inquiète la communauté scientifique, parce qu'il est petit, il est nanifié de par les conditions terribles de température, mais il est en train de se développer plus vite qu'auparavant, et les scientifiques ont quelques inquiétudes, mais il est observé, bien évidemment. Il faut quand même se souvenir qu'avant lui, l'arbre le plus vieux au monde vivait dans une montagne américaine, et qu'il avait été coupé par un garde-chasse crétin qui voulait vérifier son âge et il l'avait coupé pour compter le nombre de cernes. Imaginez le niveau de débilité de l'individu. Donc là, fort heureusement, nos savants à nous sont un peu plus intelligents et prennent soin du vieux végétal.
Alors Alain Baraton, je voulais signaler aussi au passage que en 1999, et c'est la date était quand même importante, vous avez fait interdire l'utilisation d'insecticides dans les jardins du château de Versailles. C'était à l'époque, on parlait pas autant d'insecticides qu'aujourd'hui.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a encouragé à cette action?
Nous sommes le 26 décembre 1999. Une tempête d'une violence incroyable a jeté à terre 18 500 arbres. Il faudra en couper 30 000 les semaines suivantes. Et je suis dans les allées du parc avec Hubert Assier, qui était à l'époque le président. Et ce parc n'était plus c'était un cimetière. Il y avait un silence de mort incroyable. Quantité d'oiseaux qui étaient donc sur le sol mort. C'était terrible. Il y avait une vision vraiment d'apocalypse. Et nous sommes perturbés par l'arrivée d'un engin motorisé qui pulvérisait du produit contre les moustiques. On traitait contre les moustiques plusieurs fois par an pour ne pas déranger les gens qui habitent dans le parc. Et cette vision était surréaliste. Comment osait-on tuer le peu de vie qui restait dans ce domaine qui venait d'être martyrisé? Et avec Hubert Astier, le 26 décembre 1999, on a pris l'engagement de ne plus utiliser une goutte de produit chimique dans les allées du parc. Et nous sommes aujourd'hui en 2021. Les fleurs sont toujours aussi belles. Les arbres respirent la santé. Nous avons créé avec Alain Ducasse un potager qui ne demande aucun produit de quelque nature que ce soit. Preuve en est que les produits ne servent qu'à une seule chose, enrichir ceux qui les fabriquent.
Oui. Ce fameux potager, vous me tendez la perche, alors il y a le potager de Versailles.
Ah, il y a le potager du roi qui dépend d'une administration extérieure, oui, du ministère de l'Agriculture, et le potager de la reine qui lui est près du Petit Trianon et qui a vocation à fournir les tablettes étoilées parisiennes.
Mais dont vous ne vous occupez pas personnellement.
Ah si, le potager du roi, non, mais non. Le potager de la reine, oui. Avec aujourd'hui un jeune garçon italien, Giovanni Delu, qui est à la charge à la tête de ce potager, qui est en train d'ailleurs d'être planté d'une manière un petit peu innovatrice. Nous sommes aussi en train de créer un jardin du parfumeur, parce que j'aurais souhaité que les odeurs reviennent un petit peu au goût du jour. J'aimerais que des jeunes gens qui aujourd'hui découvrent Versailles repartent avec comme souvenir une senteur, et que dans 30 ou 40 ans, quand ils redécouvriront ailleurs le même parfum, puissent se dire ça me rappelle Versailles. Donc on est en train de créer une pépinière où les enfants pourront venir sentir les végétaux. Alors, les plantes du parfumeur, celles qui sont utilisées bien sûr par l'industrie cosmétique. Mais aussi des plantes amusantes. Il y a des plantes qui ont aujourd'hui une senteur de chocolat, de chewing-gum, d'excréments aussi. Donc de temps en temps, voilà, faire un petit peu sourire les enfants, voire même les faire crier de terreur, parce qu'il faut aussi savoir s'amuser.
Mais là, vous soulevez un point très important. Dans mon jardin, j'essaie vraiment d'avoir des plantes odorantes, parce que je trouve que c'est tellement important de...
Oui, mais vous savez, je vous parlais tout à l'heure...
La beauté d'allier le parfum.
Oui, mais je vous parlais tout à l'heure du pommier. Si le pommier a développé des fruits sucrés et juteux, c'est pour attirer la personne, l'animal ou l'être humain capable de venir savourer le fruit et de s'éloigner. Les arbres fruitiers aujourd'hui savent qu'il n'y a plus besoin d'intervention humaine pour se reproduire. Oui. Les fruits ont donc moins de goût. Quand une rose produit une senteur, c'est pour attirer l'insecte pollinisateur. Les plantes savent qu'il n'y a plus besoin d'insectes aujourd'hui pour la reproduction des plantes. Et je constate que les roses qui sentent merveilleusement bon sont de plus en plus rares et que les plantes du jardin ne sentent plus comme autrefois. Il y a toujours des arbustes comme le seringa qui sont de véritables merveilles, mais de moins en moins. Et je voudrais, moi, réhabiliter tout ce qui sent bon.
Mais écoutez, on viendra visiter ce fameux jardin odorant. Aujourd'hui, là, on a parlé du réchauffement climatique. Il y a de plus en plus de végétalisation dans les villes. Ça vous rassure?
Oui, il y a eu une prise de conscience énorme. Je me rappelle quand j'ai débuté sur Inter il y a maintenant 20 ans, il m'arrivait assez régulièrement de condamner la suppression de tel jardin, le massacre de tel espace vert. Aujourd'hui, ça serait plutôt le phénomène inverse. On n'hésite pas, lorsqu'on détruit un bâtiment, à le remplacer remplacés par un jardin. Aujourd'hui, on vénère davantage les arbres qu'autrefois. On en prend soin. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, souvenez-vous, avec le Covid, eh bien, il y avait le grand débat, faut-il ou non ouvrir les jardins. Et les Parisiens, par exemple, étaient mobilisés contre la fermeture des jardins. Donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui de la nécessité des jardins. Mais imaginez une ville sans jardin. Quel est le lieu où les enfants peuvent s'ébattre ou apprendre à marcher en toute tranquillité? Quel est l'endroit qui permet à une personne âgée de réfléchir sur sa vie passée? Quel est l'endroit qui permet à deux amoureux de se compter fleurettes? C'est bien le jardin. Donc le jardin aujourd'hui a le vent en poupe, le jardinier aussi d'ailleurs. Il faut en profiter, c'est heureux.
Alors, une dernière question. J'ai avec moi le livre, le dictionnaire amoureux des jardins. Et avec vous, j'ai le point commun d'adorer le mot arrosoir.
Oui, mais dans ce dictionnaire amoureux des jardins, j'ai voulu aussi parler du monde des jardins tel que moi je l'aime. Il y a trois mots que j'aime beaucoup. C'est le mot nain de jardin. J'en parle, je suis fasciné par les nains de jardin. Et mon rêve d'ailleurs est d'installer à Versailles, dans la perspective, un nain de jardin géant. Malheureusement.
Oui, et surtout, excusez-moi, je vous coupe, mais dites-nous comment on reconnaît un vrai nain de jardin.
Il a toujours une petite lanterne parce qu'il vient des profondeurs de la terre. Il a toujours ce petit bonnet rouge. Et de grâce, et là je m'adresse à ceux qui les enlèvent tous les ans pour aller les mettre dans les forêts, c'est une erreur. Le nain de jardin ne vient pas des forêts, mais des profondeurs de la terre. Le deuxième mot que j'aime bien aussi, c'est le mot banc. On parle beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. Le premier mouvement social, ce fut l'inventeur du banc, qui permet à plusieurs fessiers de se placer côte à côte et de discuter. Vous êtes dans un parc, vous vous asseyez, il y a un banc, vous pouvez engager la conversation avec le voisin. Donc, Facebook, tout ça, c'est de la rigolade. Le premier, c'est vraiment le banc. Et puis, vous avez raison, l'arrosoir. L'arrosoir qui était autrefois appelé le vaisseau de jardin, c'est merveilleux, le terme de vaisseau. Les arrosoirs, sous les Grecs, étaient en, et les Romains, étaient en terre cuite. Oui. Ils étaient d'une beauté exceptionnelle. Ensuite, ils furent en cuivre, un métal extraordinaire, là encore, mais ils étaient très beaux. Et nos arrosoirs d'aujourd'hui sont le plus souvent fabriqués en Chine, en plastique. Ils se fendent avec le soleil et perdent leur couleur. Alors, de grâce, retrouvons les beaux arrosoirs d'antan, des arrosoirs tellement beaux que même quand on les utilise pas, ils peuvent rester sur le terrain parce qu'ils sont décoratifs. Mais j'aime l'arrosoir avec la pomme, bien entendu. Et le petit conseil, si vous le permettez, car je vois encore beaucoup de jardiniers qui ne savent pas l'utiliser, la pomme, les trous de la pomme, quand elle est installée sur l'arrosoir, ne doit pas être dirigée vers le sol, mais en l'air.
Ah, très bien.
Important.
Bon, ben, vous voyez, moi, je faisais l'erreur. Donc,
vous n'êtes pas la seule.
Je corrigerai. Karine, Eudre, que pensez-vous de toutes ces belles histoires que nous raconte Alain Baraton?
Eh ben, je suis très admirative et je me dis que la nature est magnifique, douée de cette intelligence phénoménale.
Oui, oui.
Moi, j'ai pas trop la main verte, mais je vous écoute avec en voyant toute cette passion, ça donne envie.
Ça donne envie.
Je me dis qu'il me faut ce livre aussi. Finalement, pour Noël, un éventail de choix aujourd'hui. Et c'est vraiment passionnant, mais quand on a affaire à des personnes.
Non, mais si vous le permettez, je voudrais rebondir.
Vous avez dit
un mot qui me fait grand plaisir. Vous avez parlé d'intelligence. Quand on parle des animaux, on parle d'instinct. Quand on parle des plantes, on parle d'adaptation. Non, vous avez employé le bon mot. Les plantes ont parfois des comportements intelligents. Si vous avez chez vous, dans votre cuisine, un géranium, vous observerez que la fleur se dirige vers la fenêtre, vers la lumière. C'est peut-être de l'adaptation, c'est peut-être de l'instinct, c'est aussi de l'intelligence.
On peut peut-être parler. On a encore quelques minutes. Racontez-nous le nénuphar qui se reproduit, qui sert.
Mais là encore, il y a quand on prend le temps de regarder les plantes, c'est absolument extraordinaire.
On va être obligé de continuer l'émission.
Pour faire très simple, un petit cours de botanique, mais très rapidement, pour qu'il y ait pollinisation, il faut que le pollen produit par l'élément femelle, le mâle de la plante, se dépose sur l'élément femelle. Donc il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et il s'avère que quand le lotus, pour être plus exact, s'ouvre, il est blanc et il est de sexe mâle. Et il attire un bourdon. Il y a un bourdon qui arrive, il voit cette fleur blanche sublime, il dit tiens, il y a du nectar à savourer, allons-y. Il se pose et à peine graine est-il posé sur la fleur qu'il sent de la chaleur. La plante est capable, pour faire plaisir à l'insecte, de produire de la chaleur. C'est déjà extraordinaire. Mmh. Et l'animal, l'insecte est tellement content d'être au chaud et de savourer le nectar qu'il ne bouge plus. Il couvre son corps de pollen et il ne voit pas le soir arriver. Or le soir, la fleur se referme. Elle était blanche, elle est devenue rose. Peut-être qu'elle a honte de son comportement. Le lendemain matin, quand elle s'ouvre, elle est rouge. Là, je crois qu'elle est très gênée.
Elle est très gênée.
Mais elle est devenue femelle entre-temps. Quand l'animal profite de la réouverture pour s'envoler, le pollen qu'il avait sur son corps se dépose sur les organes femelles du végétal et vont donc polliniser. Le lotus sait que la pollinisation a eu lieu. La fleur se referme, fane, tombe dans l'eau et dépose en délicatesse sur la vase une petite graine qui donnera naissance à une nouvelle plante. Je trouve ça assez extraordinaire. Je pourrais aussi vous parler du chou. Le chou qui, lorsqu'il est attaqué par un asticot aux racines, est capable, avec des gaz de style éthylène, de prévenir l'atmosphère pour dire en dessous, je suis embêté, s'il y avait un oiseau capable de venir chercher la bestiole.
Ah, oui.
Avec l'avantage, parfois, de faire venir un oiseau qui va gratter et manger la larve. Mais l'inconvénient, c'est que de temps en temps, la mouche mâle ou femelle sait qu'il y a un petit copain pour s'amuser en dessous et arrive à son tour. Mais c'est assez. Mmh. Les plantes ont été capables de mettre en place des systèmes de communication vraiment étonnants.
Oui. Écoutez, c'est passionnant. Je pense que si vous en êtes d'accord, je serais ravie que vous reveniez pour nous raconter d'autres histoires aussi passionnantes. Karine Eudre, l'émission se termine. Je vous demande un petit mot de conclusion.
Bien, merci beaucoup de votre accueil. Nous sommes toujours ravis de pouvoir parler des GEC parce que c'est un système qui est un petit peu méconnu. Donc, surtout toutes les personnes qui nous écoutent, ben n'hésitez pas à en parler à votre entourage. Renseignez-vous, on est là aussi pour vous écouter, échanger avec vous, vous rencontrer. Voilà, merci de votre invitation, Jacqueline.
Merci à vous. Alain Baraton, un mot de conclusion.
Non, j'ai passé un grand moment avec vous, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de végétation, beaucoup de plaisir à vous écouter, Karine. J'ai toujours aimé, moi, les personnes qui s'investissent pour le travail des autres et qui apportent un plus à la société. On en a besoin aujourd'hui, donc vos propos sont un réconfort et je voulais vous en remercier.
Eh bien, moi, je vous remercie vraiment d'être venu partager ces instants de complicité avec nous et nous faire prendre encore plus conscience de l'importance des arbres et de la nature. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le dictionnaire amoureux des arbres, paru chez Plon, à lire sans modération. C'est l'économie en direct sur Radio IDFM et 98.fr. L'émission est terminée. Merci à Joël Boileau, à vous, Karine Eudre, et puis vous, Alain Baraton, d'avoir été mes invités. Merci Philippe pour la technique. Merci à vous tous de nous avoir été fidèles, comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, retrouvez-la en podcast sur IDFM 98 et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je serai là vendredi prochain à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches.